Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Du désir au-delà du vaudeville et du marivaudage, aujourd'hui dans Plan large, avec Caroline Vignal, Emmanuel Mouret et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Un couple et une maîtresse ou un amant, la triangulation du désir a fait depuis les débuts du cinéma et bien avant dans le théâtre et la littérature, le bonheur des comédies vaudevillesques et des drames conjugaux. Dépasser ce schéma pour explorer les voies complexes du désir, ses trajectoires accidentées et ses circulations, voilà le programme que se sont fixés nos deux invités aujourd'hui dans Plan large qui s'étaient croisés à la fin du siècle dernier sur les bancs de la Fémis, dont ils sont sortis diplômés à une année d'écart. Deux films très dissemblables, bien sûr, mais qu'on pourrait tous deux qualifier de contes moraux, tant plane sur eux l'ombre discrète et bienveillante d'Éric Rohmer. Caroline Vignal revient sur nos écrans 20 ans après son premier film Les Autres Filles, avec encore une autre fille, Antoinette, qu'elle promène à Dodane dans les Cévennes, sur les traces de Robert Louis Stevenson et de la résolution de ses désirs entravés, comme d'autres chercheraient un rayon vert. C'est le très drôle, mais pas seulement Antoinette dans les Cévennes. Le désir et ses contradictions, c'est aussi depuis ses débuts le grand sujet d'Emmanuel Mouret. Son dixième film, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, en raffine l'architecture jusqu'au vertige, avec un art de l'enchâssement du récit proche de la marqueterie que n'aurait pas renié Diderot, lui qui l'avait adapté il y a 2 ans dans Mademoiselle de Jonquière. On retourne dans ce nouveau film au monde contemporain, mais l'esprit libertin des Lumières est toujours là pour notre plus grand bonheur. Dans le Journal du cinéma, nous évoquerons comme toujours quelques sorties, rééditions en salle et en DVD, et nous entendrons la directrice du 14A à Nantes raconter la saga de ce cinéma d'art et essai fameux, et pas seulement pour avoir hébergé le tournage du Lola de Jacques Demy, cinéma qui fête ce week-end ses 100 ans. En fin d'émission, Ntebin nous emmènera sur les routes de France, aux côtés d'Audrey Hepburn et d'Albert Finet, dans le très mélancolique, drôle et lui aussi très complexement construit Voyage à deux de Stanley Donen, édité en un somptueux coffret DVD Blu-ray, mais pour l'heure, il est temps d'être amoureuse.
Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je ressens la pluie d'autres planètes.
Alors évidemment, on aurait pu commencer par une chanson de western, genre Dean Martin chantant My Rifle, My Pony and Me, mais c'est comme ça, dans une cour de récréation que commence Antoinette dans les Cévennes. Imaginez une institutrice, pardon, faut dire une professeure des écoles maintenant, en robe lamée, chantant avec exaltation au milieu de la chorale de ses élèves à la fête de l'école, le tube mélancolique de Véronique Sanson, en regardant droit dans les yeux son amant, par ailleurs marié, père d'une de ses élèves, et vous aurez une petite idée de qui est Antoinette au début du film. En tout cas, c'est comme ça que vous nous la présentez. Bonjour Caroline Vignal.
Bonjour.
D'où elle vient cette Antoinette ?
Ah. Antoinette, c'est moi évidemment. Non, je ne sais pas d'où elle vient. C'est très difficile de répondre à cette question. Je ne sais vraiment pas d'où elle vient.
En fait, c'est-à-dire qu'avant un personnage, il y a peut-être eu un paysage avant tout.
Exactement. En fait, vraiment le départ de ce projet, c'est les Cévennes. Le film s'est longtemps appelé Cévennes tout court. Et moi, je suis originaire du Midi. Mon père est du Gard. Et bizarrement, je ne connaissais pas les Cévennes. Et j'y suis allée pour la première fois il y a une dizaine d'années. Et c'était vraiment un énorme coup de foudre, et j'ai marché comme Antoinette avec un âne, enfin c'était une petite ânesse, ma fille et mon compagnon, j'étais pas toute seule, et en fait vraiment à cette époque-là j'avais pas encore envie de revenir à la réalisation, donc j'ai fait ce voyage sans idée derrière la tête, et après l'année suivante on y est retourné et on a eu un âne qui s'appelait Patrick, et en fait c'est vraiment de cet âne qu'est né un début d'idée de quelque chose qui pourrait devenir... À l'époque, j'avais pensé à une fiction radio, parce que j'ai écrit des fictions radio pour France Culture. Et j'étais venue à la radio et j'avais dit, j'ai envie de faire une fiction qui s'appellera « Tous les ânes s'appellent Patrick ». Et en fait, je l'ai jamais écrite. Et voilà. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit qu'il était temps que j'essaye de refaire un film. Et c'est cette idée-là qui est remontée à la surface.
Mais donc, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est pas des images donc qui sont imposées d'abord. Pourtant, votre film joue beaucoup, voilà, sur ce, ouais. C'est la puissance de ce paysage.
Mais c'est peut-être pour ça que je l'ai pas écrit pour la radio, justement, parce que je pense qu'il y a des sujets, enfin c'est pas des sujets, mais des idées qui ont besoin de tel ou tel média, et en l'occurrence. Ce projet-là ne pouvait être que du cinéma pour moi.
Alors, on sait que quand on marche, il se passe beaucoup de choses, et notamment, on ne trouve pas toujours ce qu'on cherchait, mais on trouve autre chose. Et votre film fonctionne un peu comme ça, puisqu'elle va suivre un trajet qu'on pourrait penser tout tracé, c'est-à-dire qu'elle va suivre ce sentier de grande randonnée pour retrouver son amant qui y est en famille, et puis très vite, on va bifurquer. Il y a beaucoup d'autres fausses pistes, on pourrait. Donc, il y a celle du marivaudage, du vaudeville, ça pourrait la satire des néo-ruraux qui peuplent beaucoup les Cévennes, une satire du tourisme pédestre type les randonneurs. Or, très vite, voilà, sur cette ligne qui est a priori tracée, vous bifurquez.
Oui, alors d'abord, par rapport à ce que vous disiez sur la satire, moi je me sens pas du tout satirique, parce que j'aime beaucoup les néo-ruraux.
Non mais on a le sentiment que ça pourrait prendre cette direction,
pourrait
alors ce n'est
ça.
Pas ça.
Non, bah oui, parce que... mais enfin, c'est juste parce que je les aime beaucoup, et que du coup j'ai pas envie de me moquer d'eux. Et par rapport au marivaudage, pour le coup, pour moi c'était vraiment... Je l'ai vraiment utilisé plus comme un élément déclencheur, parce que j'avais envie que cette fille... aille dans les Cévennes pour une raison autre que juste aller marcher dans les Cévennes. Enfin, je voulais pas faire, justement, j'ai rien contre ce film, mais je voulais pas faire Les Randonneurs ou voilà, un film qui soit juste quelqu'un qui part en randonnée parce qu'il a envie de partir en randonnée. Et ce qui m'amusait, c'était qu'elle soit là alors que c'est pas du tout son élément et qu'elle soit tout le temps déplacée, quoi. Et voilà, et j'ai eu cette idée, alors... Là encore, pourquoi cette idée-là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment un élément déclencheur. Et à un moment, je me suis même dit que Vladimir pourrait ne jamais...
Vladimir, c'est
son amant. Qu'elle pourrait ne jamais le croiser, en fait. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire toute cette randonnée sans jamais croiser son amant. Et puis à un moment, c'était irrésistible, en fait. J'ai pas pu faire autrement que de le faire revenir. Mais oui, voilà. C'était... Et puis j'aime bien cette idée de partir du cliché plutôt que d'y arriver. Et je trouvais ça intéressant de mettre les spectateurs dans presque des chaussons du vaudeville et ensuite les amener dans des choses plus inattendues.
Il me semble, Ntebin, que cette bifurcation a lieu à un moment assez précis dans le film. C'est un long plan séquence, si je me souviens bien, où la femme outragée va avec une douceur et un calme total, évincer sa rivale avec un monologue qui là encore déjoue toutes les attentes du récit, il me semble.
Bah, ce que j'aime bien moi dans ce film, c'est la rencontre entre justement ce paysage et une actrice qui est pas seulement une voix, qui est pas seulement un corps, mais qui est aussi une actrice qui écoute. Alors j'ai beaucoup pensé, donc il y a cette longue séquence entre Laure Calamy et Olivia Cote qui marchent ensemble, et puis vous savez, Ernst Lubitsch, il ce qu'il préférait comme plan, c'était les plans à deux personnages, il appelait ça le two shot, parce que vous aviez à la fois l'action et la réaction. Et là, évidemment, c'est peut-être un cliché de le dire, mais là où aussi on voit un grand acteur, une grande actrice, c'est dans sa capacité à écouter. Donc voilà, Laure Calamy, elle est absolument exubérante, elle est tout le temps là, etc. Mais quand elle ne fait apparemment rien, elle ne fait qu'écouter sa partenaire, elle la met en valeur, et puis du coup la séquence prend une force particulière.
Ouais, elle est extraordinaire. Enfin, elles sont extraordinaires toutes les deux dans cette séquence, et c'est vrai que le fait de pas monter nous permet d'en profiter pleinement, je pense.
Avance, bordel. T'as décidé de me faire chier. Bon, tu restes là si tu veux, moi je m'en vais. D'accord ? Allez. Je m'en vais, Patrick. Au revoir, Patrick.
h 25. Alors là, Patrick, je sais pas si tu te rends compte, mais on va jamais y arriver. On n'a même pas fait 2 kilomètres, là. Hein? Alors on va mettre 20 ans à la faire, cette étape. Tu t'en rends compte de ça ou pas? Tu en as conscience? Ok, t'as gagné. Pause pique-nique.
Cela dit, ça aurait été pas mal en fiction radiophonique, hein, parce que ça marche, même si on le voit pas, ce Patrick. Alors, les grands mots, les grands noms ont été lâchés déjà par Entebbe, Ernst Lubitsch. Quand on voit un âne dans un film, on a aussi des bêtes réflexes de cinéphile, donc on pense à Robert Bresson. Tous les ânes ne s'appellent pas Patrick. L'âne de Bresson s'appelait Balthazar. Non, on y pense parce que la relation qui va s'établir entre cette jeune femme et cet âne n'est pas très loin, finalement, de la relation qu'il y avait entre Marie, Anne Wiazemski et Balthazar, parce qu'on va lui parler à cette âne. Ouais. Alors, elle va se rendre très vite compte que cette âne qui ne veut pas avancer n'avance que quand on lui parle, et qu'au-delà de la fonction presque scénaristique qui permet à Laure Calamy d'avoir des grands monologues et dévoilant toute son intériorité, il a une fonction, c'est presque un âne qui est réduit à ses oreilles. C'est très curieux.
Oui, alors Bresson, je suis un peu gênée de le dire, mais c'est pas vraiment une référence pour moi. Mmh. En fait, je pense qu'il n'a pas assez d'humour pour moi.
Quoique.
Et puis je pense que je traite l'âne avec peut-être plus de naïveté et de croyance enfantine, parce que j'ai vraiment un truc encore très enfantin par rapport à... Ouais, enfin, je crois que Laure et moi, on y croyait complètement, en fait, que cette âne l'écoute, qu'il l'entend, qu'il y croit, qu'il l'aime. Et ce qui était hyper important pour moi, c'est que le spectateur le croit lui-même, c'est-à-dire que le spectateur ne soit pas du tout en surplomb par rapport à ça, et que il parte avec elle, que jamais, enfin, il y avait quand même un vrai défi à se dire que cette fille se met à raconter sa vie à un âne. Et j'espère, je pense que le spectateur très vite est avec elle et se dit tout est absolument normal, elle parle à cette âne et cette âne l'écoute et tout va bien. Parce que finalement on est un peu comme ça dans la vie encore, enfin il y a plein de gens qui parlent à leur chien, à leur chat. Voilà, donc c'était ça un peu l'idée en tout cas.
Mais cinématographiquement, on n'est pas loin de l'effet Kuletchov. Vous savez, on a l'impression que l'âne pense. Parce que en face de lui, il y a tout ce qu'il faut pour le stimuler. Donc nous, comme on est à la place finalement du spectateur, enfin on est le spectateur, mais on se met à la place du spectateur du personnage d'Antoinette. Donc on est l'âne qui écoute. Hein. Sauf dans cette scène dont on parlait, où pour une fois, c'est Antoinette qui écoute.
Oui, mais c'est vrai que la tête de l'âne, souvent dans le scénario, j'écrivais tête de l'âne, tête de Patrick. Parce qu'en fait, évidemment, ouais, c'était vraiment ça, c'était vraiment l'effet Kuletchov. Pour qu'il existe, il fallait qu'on ait ces plans sur l'âne. Il y a une séquence, par exemple, où Antoinette reçoit tout d'un coup des textos de son amant alors qu'elle n'a pas de réseau la plupart du temps. Et elle est complètement hystérique parce qu'elle a plein de textos. Et en fait, il y a un plan sur l'âne dont on ne peut que se dire qu'il la juge, enfin, en tout cas, qu'il est à distance par rapport à ce qui se passe. Et c'est très drôle, alors qu'en fait, il a juste une tête d'âne normale, quoi.
Comment on met en scène un âne, précisément, en tout cas, comment on le dirige? Les cinéastes disent toujours le pire dans les films, c'est de mettre des enfants et des animaux. Donc, il y a un peu d'enfants, mais il y a beaucoup cet âne. Comment on dirige un âne?
Bah oui, c'était une vraie inquiétude pour moi. Enfin, c'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai eu terminé le scénario, ça a été de le faire lire à des gens qui connaissaient mieux les ânes que moi, pour qu'ils me disent si c'était possible, en fait, de faire ce que j'avais imaginé. Et après, on a trouvé une dresseuse absolument formidable qui avait des ânes et voilà, c'était elle qui dirigeait l'âne en fait, hein, plus que moi. Et Laure aussi, parce qu'en fait, finalement, c'était Laure qui était en première ligne quand la caméra tournait, puisque la dresseuse n'avait plus vraiment la main. Donc voilà, on s'est débrouillé comme ça.
Et Laure Calamy, parlons-en, justement, extraordinaire actrice, vous êtes la première à lui donner un premier rôle, ça va, je pense, ouvrir beaucoup de possibilités encore pour elle. Qu'est-ce qui vous intéressait chez elle, au-delà de sa capacité d'écoute, justement, bien relevée par Ntebin?
Bah, tout. En fait, je trouve que c'est une actrice fantastiquement drôle et tout le temps, pas que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où je trouve qu'elle n'est que drôle. En fait, elle est toujours à la fois très drôle et il y a un truc qui est sur la brèche, quoi, où on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça que je trouve magnifique. Et puis je trouve qu'elle a un corps, ce qui n'est pas si fréquent, que elle a un visage. Je me souviens, quand on a fait les essais caméra, où du coup on voit les acteurs filmés sans son. Je trouvais qu'elle avait un truc presque Liliane Guiche, quoi. Elle a un visage d'actrice du muet, elle a un visage tellement expressif, tellement mobile, avec des très grands yeux comme ça. Voilà, et puis elle est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir encore énormément de choses à explorer avec elle. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire.
Ntebin ?
Le danger avec quelqu'un comme Laure Calamy, c'est qu'elle est tellement bonne que c'est très facile de la cantonner dans des seconds rôles, puisqu'il suffit qu'on la mette dans une scène pour que tout d'un coup tout le monde soit bien ou qu'elle tire tout vers le haut. Donc c'est quand même rassurant de savoir qu'elle peut être protagoniste d'un film. Moi, je me souviens de l'avoir vue sur scène, c'est exactement pareil. Elle faisait Lisette dans Le jeu de l'amour et du hasard. Elle a eu une Molière d'ailleurs, mais une Molière du second rôle. Parce que bon, si vous avez un petit problème dans un film d'intérêt d'une scène, d'une comédie, où ça se ralentit un peu, on met quelqu'un comme elle, et puis tout d'un coup ça va mieux. Donc c'est quand même rassurant de savoir qu'on peut aussi en faire un premier rôle.
Il y a une collision, je dirais presque, ou en tout cas une très belle rencontre dans votre film. Je parlais de l'ombre de Romère tout à l'heure. Parmi les randonneurs que croise Antoinette dans les Cévennes, il y a une actrice que tout d'un coup on se dit mais c'est Marie Rivière, c'est la grande actrice romérienne, c'est celle qui guettait le rayon vert dans le film du même nom, et on se dit bah tiens, si on avait eu Laure Calamy chez Éric Romère, ça aurait fait quelque chose de pas mal. Qu'est-ce que vient faire Marie Rivière dans votre film?
Le rayon vert, c'est vraiment le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Je l'ai vu quand j'avais 16 ans et voilà, ça a été vraiment un choc. Et quand j'ai commencé le casting, à un moment, je me suis dit, mais peut-être que Marie Rivière acceptera. C'est pas un très grand rôle, mais elle n'a pas d'agent, donc je lui ai écrit. Je lui ai raconté les circonstances dans lesquelles j'avais vu le rayon vert et ce que ça avait déclenché chez moi. Et on s'est rencontrés et j'étais tellement émue qu'elle soit sur le tournage, parce qu'en plus, ce personnage est comme... c'est comme s'il passait le relais à Antoinette, d'une certaine manière. C'est comme si Delphine du rayon vert passait le relais, parce qu'elle est... c'est elle qui l'encourage, en fait, à continuer son voyage, alors que Antoinette, découvrant que son amant n'est pas là quand elle arrive dans les Cévennes, pourrait rentrer à Paris tout de suite. Et Marie Rivière Delphine lui dit que peut-être ça vaut le coup de continuer. Donc voilà, j'étais très émue qu'elle soit présente. Et c'est... Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire.
Mais sa présence est très émouvante. C'est une sorte de bonne fée pour le personnage de Laure Calamy. Emmanuel Mouret, vous nous écoutez depuis le début de cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Laure Calamy.
Ah, j'ai un excellent, excellent souvenir, en effet. Alors, parce que moi, elle faisait, on va dire, un second rôle, puisqu'on en appelle comme ça dans mon précédent film, Mademoiselle de Jonquière. Et c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est très difficile de trouver des bons, déjà d'en trouver des bons second rôles, et parce que c'est très difficile quand on est comédien d'arriver dans un tournage au milieu de quelque chose, et j'avais été très impressionné. Non, c'est une actrice exceptionnelle.
Mon ami, mais quelle folie! De toute façon, votre plan ne tient pas debout.
Et pourquoi donc?
Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre?
Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Et si je lui ai inspiré dans le temps des grands sentiments, c'est à proportion de ma résistance. N'avez-vous jamais observé que l'amour grandit quand l'objet de nos vœux nous échappe?
Vous semblez bien sûr de vous.
Si je vous disais que le marquis vient tous les jours me rendre visite pour s'enquérir l'air de rien de quelques nouvelles que je pourrais avoir de cette fille et de sa mère? Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que le marquis soit une proie si facile.
Je crains cependant que votre entreprise soit excessive.
Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté.
Soyez juste. N'étiez-vous pas informé de sa nature inconstante? À quoi nous sert-il d'en vouloir à un homme malhonnête si la nature l'a ainsi fait?
Serait-il juste de laisser la malhonnêteté vagabonder à son aise? Ma colère est pleine d'un esprit de justice. Je ne cherche pas une revanche personnelle. Je vois en moi le genre féminin et en lui le genre masculin.
Pour rendre justice, notre cœur doit être pur et loin de tout ressentiment.
Madame, c'est cette pureté qui m'anime. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société ?
Il me semble très peu chrétien que d'espérer la souffrance d'autrui. Oh.
Ouvrez les yeux, mon ami, sur le genre humain. Seule la douleur peut aider l'esprit à reconnaître ses erreurs.
Ah. Serait-ce donc par bonté que vous songez à le faire souffrir?
Oui. Je veux éclairer son esprit.
Vous écoutez France Culture Plan Large avec Caroline Vignal et Emmanuel Mouret. C'est précisément Emmanuel Mouret, un extrait, on l'aura reconnu, de votre film précédent, Mademoiselle de Jonquière, avec Laure Calamy, la confidente du personnage joué par Cécile de France, Madame de la Pommeraye. Alors, outre le plaisir d'écouter Laure Calamy dans un registre différent, on s'est dit que finalement, ils n'étaient pas très loin, ces deux films, votre film qui vient de sortir, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et c'est Mademoiselle de Jonquière, d'abord parce que avec ses récits d'amour et de désir enchâssés les uns dans les autres, on est dans la même structure que Jacques le Fataliste de Diderot, où il y avait comme ça des récits dans des récits. Jacques le Fataliste, dont était tiré le récit de Mademoiselle de Jonquière, et qui avait inspiré les Dames du Bois de Boulogne à Robert Bresson. Revoilà Robert Bresson. Mais c'est peut-être plus encore parce que, bien que vos personnages soient tout à fait contemporain, il s'exprime dans une langue et avec une façon de réfléchir à ce qu'ils font et à ce qu'ils ont fait qui n'est pas très loin d'un conte philosophique du 18e siècle, et aussi parce que le Paris que vous filmez, où une partie de l'histoire de ce nouveau film se passe, c'est le Paris de l'âge classique. Ce sont les quais de la Seine, ce sont les hôtels particuliers. On est, bien que le film se passe au 21e siècle, dans un esprit tout à fait 18e-iste, Emmanuel Mouret.
Ça procède pas du tout, en tout cas, d'un calcul. Et si je peine. Je pense que ce goût pour peut-être pour l'échange, la conversation et l'argumentation, il me vient davantage du cinéma. Presque que de la littérature. J'ai grandi dans une cinéphilie relativement classique. Tout à l'heure, on évoquait Lou Beach, Billy Wilder, on évoquait Romère. Je pourrais parler, oui, que ce soit Renoir ou Guitry, ou beaucoup aussi de comédies italiennes qui m'ont marqué. J'ai grandi, en tout cas, dans un cinéma, oui, de l'échange, de la conversation, de la parole. Et c'est presque plus. Et je me demande si le fait qu'on note que les personnages conversent beaucoup dans les films, est-ce que ça serait pas plutôt une sorte de décalage avec les films actuels qui conversent moins que dans le passé? Alors peut-être vous m'éclairez mieux, Ntebine, par rapport à votre culture qui est plus vaste que la mienne, mais j'ai parfois ce sentiment. Voilà.
Bah, vous savez, je pense que les cinéastes se méfient de la parole depuis que le cinéma est devenu parlant. En fait, et à ce moment-là, les metteurs en scène, ils faisaient du muet, et tout d'un coup, ils ont vu arriver des tas de coachs ou de gens qui venaient du théâtre pour expliquer comment il fallait faire parler les gens à l'écran. Mais il y a des cinéastes qui se sont dit, c'est une aubaine. Alors, vous avez deux écoles. Vous avez Mankiewicz qui disait, depuis que le cinéma s'est mis à parler, il a le devoir de dire des choses intelligentes. Et puis vous avez l'école Lubitsch. Alors on en revient encore à lui, mais c'est un peu la source quand on parle de comédie. C'est alors votre film, c'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Moi, je dirais que votre cinéma, c'est les choses qu'on entend et les choses qu'on voit. Et ce qui est intéressant dans la comédie, quand on cherche un peu à être un peu original, c'est que les choses qu'on entend ne sont pas ne disent pas la même chose que les choses qu'on voit. Emmanuel Mouret aime bien filmer les gens de dos, par exemple. Et quand quelqu'un est de dos, on est obligé d'écouter ce qu'il dit, parce que sinon, on le voit pas. Et justement, quand la parole devient l'ellipse de l'image, ou l'inverse, c'est là que ça commence à devenir intéressant, je trouve.
C'est un principe de montage, Emmanuel Mouret. Cette contradiction, ou cette complétude, ou cette discussion entre ce qui est dit et entre précisément ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est un pur principe de montage.
Je pense que oui, il y a presque deux principes d'image qui se superposent. Lorsque évidemment, la parole impose des enjeux et des enjeux de désir. Donc il y a presque deux principes. Il y a ce qu'on voit, comme vous le dites, et ce qu'on cherche à savoir, ce qu'on cherche à confirmer. Alors c'est pour ça que j'utilise en effet pas mal le plan séquence et des personnages qui circulent beaucoup pour stimuler, on va dire, le regard du spectateur qui va essayer de trouver une confirmation, ou trouver un indice, on va dire, dans le visage du comédien. Mais c'est aussi mon impression que j'ai eue dans ma cinéphilie, de voir que la parole, enfin, et les enjeux, parce que c'est toujours difficile de parler la parole, font que le regard des comédiens devienne un écran dans le double sens du terme. On cherche à voir ce qu'il y a derrière les yeux, derrière l'expression du visage. Et après, je suis toujours embarrassé par cette notion de parole versus action. On connaît la fameuse formule de Walsh, voilà, action, action and action, voilà la définition de ce que doit être un film. Mais on sait très bien qu'une parole au cinéma peut être beaucoup plus violente qu'une gifle, voire qu'un coup de couteau, et beaucoup plus merveilleuse que mille caresses. J'essaye pas de, pour moi, parole et action sont intimement mêlées malgré le titre du film.
Mais la parole est une action, hein, on le sait depuis Howard Hawks et Eric Rohmer, ouais. Etc. Il faut filmer la parole comme une action. Alors vos personnages, ils sont pas seulement pris dans la contradiction entre la parole et les actes, entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ils sont aussi pris sans cesse dans des injonctions contradictoires. Je ne sais pas comment ils arrivent à survivre à tout ça, et c'est juste justement une des questions du film, puisqu'ils sont tous bienveillants, vos personnages, ils veulent tous faire le bien, mais ils sont aussi animés par des désirs, par des pulsions qui peuvent blesser autrui, et ils vont se débattre dans ces nœuds, dans ces contradictions souvent impossibles à résoudre, et heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas de film, sans doute. Est-ce que c'est là que se joue votre cinéma, Emmanuel Mouret?
Oui, je pense pour beaucoup. Je pense que quelque part, la cruauté est d'autant plus grande que les situations mettent ensemble des gens qui sont de bonne volonté. Et la bonne volonté, l'attention à l'autre, le souci de l'autre, n'empêche pas la cruauté. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui, oui, qui que je reproduis malgré moi, en tout cas d'un film, et qui se retrouve dans où les personnages sont. On me dit alors, il y a des personnages souvent qui sont infidèles. Et je dis non, ce sont des personnages qui tentent d'être fidèles à deux choses contradictoires. D'un côté, être fidèles à leurs désirs, à leur appétit, à leur envie de entre guillemets de s'épanouir. Et de l'autre côté, d'être fidèle à l'idée d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui a souci des autres, qui prend égard des gens qu'ils aiment. Et c'est dans ce rapport, on va dire, inconciliable, dans ces arrangements que les personnages trouvent tout seuls ou entre eux, que voilà, qu'il y a quelque chose, je pense, qui m'intéresse.
Maxime ?
Oui ?
Ah, je suis Daphné, la compagne de François.
Ah. Bonjour.
Bonjour. Il est vraiment désolé, mais je pense qu'il sera là d'ici 2 ou 3 jours, normalement.
Avant de partir, François m'a dit que t'allais pas très bien, que c'est une histoire d'amour un peu douloureuse, je crois.
J'ai pas envie de t'ennuyer avec ça.
Non, vraiment, je t'assure, il y a aucun risque que ça m'ennuie. Et puis moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça.
Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous. Je suis déjà mariée.
J'étais persuadée que tu m'avais complètement oubliée.
Non, j'adorais le rendez-vous, nos conversations. Je me sentais bien avec toi. Je suis sortie avec François un petit peu pour lui faire plaisir. J'ose même pas imaginer ce que François penserait s'il savait que je te racontais tout ça. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié.
J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée.
Hein. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Par exemple, ta femme apprenant que tu es désirée par moi pourrait soudainement se remettre à te désirer. C'est humain de ne pas pouvoir résister. C'est pas une faute que de montrer son désir. C'est un regard qui dit « Nous ne pouvons pas vivre ce désir, parce que nous sommes déjà pris. Et c'est pas grave. Je suis tout de même très heureuse de t'avoir croisée. »
Dans un des extraits de cette bande-annonce de votre film, Emmanuel Mouret, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, on ne désire jamais tant l'autre que parce qu'il est désiré par autrui. C'est la fameuse théorie du désir mimétique, c'est René Girard, votre film n'est pas un essai philosophique, mais il y a cette interrogation justement sur pourquoi est-ce qu'on désire quelqu'un.
Oh, je ne saurais pas y répondre, le film n'y répond pas, et cette allusion au désir mimétique était pour moi l'occasion beaucoup d'un dialogue cocasse à un moment donné de la scène, mais pourquoi est-ce qu'on désire non, c'est qu'il y a désir il y a désir et c'est le moteur du cinéma, le désir. À partir du moment où il y a désir, il y a suspense, parce que il y a une attente, il y a est-ce que celui qui désire va arriver à la fin de ses désirs. Donc le désir, c'est le drame aussi, c'est tout le moteur du cinéma.
Mais le désir mimétique, c'est aussi une sorte de mise en abîme du rapport même du spectateur à ce qu'il voit, voilà, et au personnage qu'il voit à l'écran.
Voilà, le désir, oui, c'est cette idée qu'on ne désire pas quelque chose, on désire, oui, ce qui est on désire le désir de l'autre, voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut... On parlait tout à l'heure, on évoquait, en tout cas, on va évoquer, en tout cas, Audrey Hepburn. Moi, je trouve que c'est un personnage je pense à des films comme Vacances romaines ou d'autres. Il suffit de voir Audrey Hepburn s'émerveiller pour quelque chose, et que ça soit une fourchette, un tire-bouchon ou autre chose, pour qu'on soit nous-mêmes émerveillés à travers son regard. Et c'est vrai que le cinéma des acteurs, des actrices, des personnages, en tout cas de cinéma, peuvent nous rendre amoureux de quelqu'un par le désir qui est provoqué. Donc,
Entebbe.
Oui, et puis il y a aussi une chose qui était assez audible dans cette bande-annonce, c'est on attend que l'autre nous fasse des confidences. Et le spectateur, il va au cinéma pour ça, pour que des gens qui voient sur l'écran lui fassent des confidences. On a l'impression que même c'est que pour nous. Et il y a une chose, moi je me souviens d'une interview d'Emmanuel Mouret qui disait, parce qu'à l'époque il jouait dans tous ses films, presque, et on lui avait demandé...
Toujours malgré lui, à l'en croire.
Et on lui avait demandé comment faire pour être naturel, et puis il disait, il faisait référence à la plaisanterie ou à la farce. Il disait, quand on fait une farce à quelqu'un, on est obligé d'y croire et d'être pour que la farce marche, et en général on est très très bon. Et là il y a dans ce film là aussi, alors je vais pas spoiler ou mais en tout cas, il y a à un moment donné un personnage qui fait une mise en scène, en fait, dont on s'aperçoit après que c'était une mise en scène, et c'est pas une farce, c'est quelque chose de plus cruel, mais voilà, il y a cette idée de jeu, de jouer pour l'autre, donc aussi de faire une représentation. Et de se mettre en scène, y compris quand on raconte son passé, quand on raconte peut-être parfois des mensonges. Voilà, il y a ce jeu-là.
La manipulation et la machination sont les ressorts, pour moi, les plus savoureux du cinéma. Là, en effet, il y a un côté volontaire aussi, on va rien divulguer. Après, on peut assister aussi au cinéma à des sortes de manipulations involontaires aussi.
Et puis il y a aussi toujours ces personnages chez vous qui désarçonnent, et notamment les jeunes filles. Et là, il y a un personnage formidable, celui de Sandra, de Genatiam, donc il va dire faut pas me dire que je t'aime, parce que sinon je ne pourrais plus te désirer. Je suis, ou d'autres qui vont dire, je suis venu avec toi parce que tu es marié, justement pour être sûr qu'il ne se passe rien, et ça vient de chez Lubitsch.
Oui, et puis une jeune femme très, très spirituelle et très intelligente, parce que ce qu'elle dit, elle le dit avec évidemment une aisance grande qui peut être limite un peu surprenante, choquante, mais ce qu'elle dit est très profond, comme les jeunes femmes, en effet, chez Lubitsch. Et pour moi, oui, c'est un personnage qui me porte à cœur et dans lequel je me suis servi pour dire des choses comme ça, mais qui ne peuvent pas être dites. Et ce qu'elle dit sur l'amour, justement, est quelque chose comme quoi, désirer quelqu'un pour des raisons, ça, ce n'est pas de l'amour. Voilà. C'est pour ça qu'elle prône une application où on se rencontrerait par hasard et non pas par choix. On n'est pas là pour faire ses courses quand on fait l'amour. On n'est pas là pour choisir quelqu'un avec ses qualités. Mais l'amour, c'est justement, c'est la surprise. C'est aimer malgré tout.
Et alors, ce qui ne peut pas être montré, ce qui ne peut pas être dit, s'entend malgré tout par la musique. Il y a une utilisation assez étonnante de la musique chez vous dans ce film, Emmanuel Mouret, parce que ce sont tous des grands airs classiques qu'on connaît, qui déjà charrient beaucoup d'émotions par rapport à la première fois qu'on l'a entendu, etc., mais qui viennent ponctuer sans cesse et presque commenter l'intrigue.
Ben, moi, j'aime bien dire que la musique, c'est un peu comme une voix off, comme quand une voix off nous renseigne sur une situation, mais purement sentimentale, et qui a ses effets d'accélération et aussi ses effets révélateurs. Parce que ce qui est étonnant quand on travaille la musique, c'est que d'un coup, selon le morceau qu'on met, il apparaît sur le visage des comédiens certaines choses ou pas.
Donc, c'est encore l'effet Kouletchov.
Ouais. Pardon ?
L'effet Kouletchov auditif. Ouais.
Et puis, il y a un goût, je pense, avec mon monteur, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. J'aime bien dire que mon monteur est presque le compositeur avec lequel je travaille. On passe beaucoup de temps sur la musique. Et je pense qu'on a un goût, quelque part, un peu du romanesque, du lyrique. Et voilà. Et donc c'est pour ça que quelque part on essaye de ne pas en avoir peur, peut-être d'en mettre autant, et que la musique c'est avant tout du plaisir, et s'il n'y a plus de plaisir, il reste plus grand chose.
Thank you.
Manuel Mouret, c'est précisément une des musiques qu'on entend dans votre film, l'arabesque numéro 1 de Claude Debussy, interprétée ici par Shura Cherkassky. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait est en salle depuis mercredi, tout comme Antoinette dans les Cévennes. Merci à tous les deux d'être venus vous en parler. Vos deux films ont un point commun, ou encore, ils font partie de la sélection officielle et très nomade du Festival de Cannes, qui, comme on le sait, n'a pas eu lieu, mais se projette comme ça, de façon rhizomique, chez ses confrères. Après Deauville, c'est au tour du Festival de Saint-Sébastien d'accueillir, depuis hier et jusqu'au 26 septembre, 13 des longs-métrages, dûment labellisés par Cannes, dont 5 en compétition, ceux de Daniel Arbide, Sharounaz Bartas, Naomi Kawase, François Ozon et Thomas Winterberg. Et puis le Festival Lumière, qui se tiendra à Lyon du 10 au 18 octobre, annonce lui pas moins de 21 avant-premières des films qu'on aurait dû voir sur la croisette. S'il n'est pas annulé, ce festival, comme le Dinard Film Festival, qui devait se tenir du 30 septembre au 10 octobre, dont on a appris mercredi l'annulation in extremis, l'Ille-et-Vilaine venant de passer en zone rouge de circulation du virus. Alors on croise les doigts pour le festival Lumière, mais il y aura tout de même du cinéma à Cannes, ça sera ce soir, avec un concert en hommage à Federico Fellini pour célébrer son centenaire, c'est à 21h sur la plage Massé, et c'est gratuit. Vous écoutez France Culture, et dans Plan Large, il est temps d'ouvrir le journal du cinéma.
You're so sad, and there's no need to be. I've seen her, and she wants you to know that she's happy. I've seen your little girl.
Hello? It sounded like a child's voice.
There is something wrong on this island, and you are trying to keep it from me.
Super bien. On devient des merveilles ou bien
des... On est dans le monde des merveilles.
Le monde des merveilles, ouais, c'est
t'es,
bien.
T'es le dernier.
Ouais.
Mais t'es le dernier, mais t'es là.
Ouais. Et j'espère encore pour longtemps.
Et j'espère pour longtemps.
Ouais, je l'espère aussi.
Et aujourd'hui, eh ben, y a un projet d'aller, de retourner à La Havane, réenregistrer des titres avec des musiciens.
Ouais. Moi, là, je suis fatigué.
Mais... Et tu vas y aller.
Non, c'est toi qui vas faire ma face. Voilà les jeunes. Ha! Chef Fatimata.
Rendez-vous ce soir, chef Fatimata. Rendez-vous ce soir, chef Fatimata.
Petit tour du monde dans vos salles et sur tous vos écrans cette semaine. La musique qu'on entend, c'est celle des Maravillas de Mali, un groupe de musique afro-cubaine, proprement afro-cubaine, puisqu'elle est jouée par un groupe de Maliens qui avait été invité à Cuba dans les années 60 à l'invitation de Fidel Castro, à l'époque des amitiés communistes d'une rive à l'autre de l'Atlantique. Richard Minier et Édouard Salier en ont retrouvé les survivants et de façon Buena Vista Social Club, ça donne ce beau documentaire Africa Mia. Un autre documentaire, Honeyland, de Tamara Kotevska et Lyubomir Stefanov, suit lui les pas d'une apicultrice macédonienne et met en scène la confrontation entre production respectueuse de l'environnement et surproduction intensive. C'est un film soutenu par France Culture. Confrontation encore beaucoup plus angoissante, c'est le passionnant Les Révoltés de l'an 2000, signé d'un cinéaste auteur de seulement 2 films, Narciso Ibáñez Serrador. Et pourtant, avec ces 2 films, il a été une influence majeure pour de nombreux cinéastes comme Guillermo del Toro. Le film raconte la confrontation entre un couple de touristes anglais bien comme il faut et des des enfants meurtriers sur une île andalouse ou comment l'enfance meurtrie se venge des adultes sous le franquisme agonisant. On était en 1976. Le film, après sa réédition estivale en salle, sort en DVD et en Blu-ray chez Carlotta et c'est absolument indispensable, tout comme cette réédition en salle, cette fois du tout aussi étrange Ne vous retournez pas, du cinéaste anglais Nicolas Roeg, avec Julie Christie et Donald Sutherland, plongé dans une Venise fantomatique. Entebbe.
Oui, alors Nicolas Roeg, c'est un peu un mystère, un cinéaste qui est devenu ce qu'on appelle culte aujourd'hui, qui était très prometteur dans les années 70. Là, alors, Ne vous retournez pas, c'est un film assez extraordinaire, c'est-à-dire que c'est sans doute l'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, pourtant qui montre très peu de choses. Et donc c'est vraiment tout l'art de la mise en scène de nous mettre à l'intérieur du mental de ce couple qui pourrait être idéal, Julie Christie, Donald Sutherland, au summum de leur carrière, qui font une visite touristique d'une inquiétante étrangeté dans Venise. Et pourtant, Venise, Dieu sait qu'on l'a beaucoup vu au cinéma dans tous les rôles, donc qui est leur partenaire. Et puis, il faut pas trop en dire, mais il y a une petite fille, il y a un drame, une tragédie. Et puis, à partir de là, on est, franchement, si vous n'êtes pas mort de peur au bout de trois quarts d'heure, c'est qu'en fait, vous avez fermé les yeux avant et que vous êtes parti de la salle. C'est un film terrifiant.
Ne fermez pas les yeux et ne vous retournez pas, de Nicolas Roeg. C'est donc en salle depuis mercredi, tout comme Total Recall de Paul Verhoeven, également réédité en copie neuve, une des meilleures adaptations, à mon sens, à l'écran de Philip K. Dick, avec son Arnold Schwarzenegger envoyé sur Mars avec la mémoire un peu trafiquée. Et puis, pour voir tous ces films, il faut bien sûr aller en salle. On le sait, les salles souffrent depuis le confinement, les a fait fermer, le redémarrage difficile pendant l'été, ça va mieux et ça n'empêche pas de faire la fête, comme à Nantes où le 14A, qui d'ailleurs programme vos deux films, Caroline Vignal et Emmanuel Mouret, le 14A fête tout ce week-end son centenaire, malgré la tristesse d'avoir perdu mardi dernier à 87 ans son directeur historique, Jean-Serge Pinault. Si le cinéma s'appelle le 14A, c'est à son créateur qu'il le doit, un certain Salomon 14A, cinéaste forain qui s'y est installé en juin 1920, et depuis, ce cinéma, dont un des titres de gloire et d'avoir accueilli le tournage du Lola de Jacques Demy, ce cinéma a connu plusieurs renaissances. Sa directrice actuelle, Caroline Grimaud, nous en conte la saga.
C'est vrai que c'est un cinéma qui est marqué par l'audace de son créateur, qui avait acheté son projecteur forain à Georges Méliès et qui décide de monter un cinéma alors qu'il y a un cinéma concurrent pas loin. L'audace surtout de Annie Nouaille, qui est rentrée comme secrétaire et puis qui est devenue directrice par la force des choses avant la Seconde Guerre mondiale et qui a fait reconstruire ce cinéma. Et puis aussi l'audace de Jean-Serge Pinault, de qui on tient une grande partie de cette histoire, qui en a été le directeur pendant 35 ans. Qui avait 27 ans hein, quand il s'est retrouvé à la tête du 14A, qui s'est lié d'amitié avec Jacques Demy quand celui-ci est venu tourner Lola à Nantes, qui était un film fauché dont il a utilisé les décors du 14A. Jean-Serge travaillait à acheminer et présenter les rushs à l'équipe du jour au lendemain. Et puis, c'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup d'audace, qui a voulu marquer la singularité d'un cinéma qui était à la fois un cinéma populaire et un cinéma d'auteur. Donc, qui a accueilli le premier festival de films homosexuels qui avait eu lieu à l'Entrepôt et qui ensuite a été à Rennes et à Nantes au 14A, en passant sous le manteau le film de Jean Genet, Un captif amoureux, qui a choisi délibérément de programmer Je vous salue Marie en 1985, sans penser qu'il allait à ce point-là s'attirer les foudres des catholiques intégristes qui venaient prier en croix devant le cinéma, qui a accueilli et même était un peu au-delà de l'accueil le Festival des Trois Continents qui existe encore aujourd'hui. C'est quelqu'un, son premier acte cinématographique, j'ai envie de dire, à la tête du 14A, ça a été d'inviter Robert Bresson pour Pickpocket, par exemple. C'est un cinéma des premières fois, effectivement, par ses innovations techniques. La première projection en numérique dans l'Ouest, c'était Sarah Band au 14A en 2005, je pense. C'est vrai que c'est un cinéma qui incite à l'audace et au renouveau, aussi parce qu'on a la chance d'avoir, grâce au festival qui existe, hein, on accueille et on co-organise pour une partie d'entre eux une dizaine de festivals par an, qui a la chance d'avoir un public dont on entretient le goût de la curiosité et l'audace. Hein. Il y a beaucoup de cinémas centenaires, mais il y en a très peu qui sont restés avec le même nom, au même endroit, et qui ont toujours été exclusivement un cinéma, si on accepte la période de l'après-guerre, de 43 à 51, où on s'est occupé de le faire reconstruire. Ce cinéma a été une salle de cinéma pendant 100 ans, et s'est appelé le cinéma 14A pendant 100 ans. Et ça, c'est assez rare.
Les festivités du centenaire continuent jusqu'à demain soir au 14A. Tous les détails sur le site de France Culture à la page Plan Large. Et pour en savoir plus encore, vous pouvez vous plonger dans la folle histoire du 14A. C'est un livre édité chez Dorbestier. On continue notre périple cinématographique sur les routes de France, quelque part entre le Havre et la Côte d'Azur. C'est le générique de début signé Henri Mancini de Voyage à deux, film tout à fait sidérant de Stanley Donen, sorti en 1967, qui raconte sur la route des vacances et avec cinq temporalités différentes tressées parfois plan à plan, 12 ans de la vie d'un couple, de la naissance du désir à l'amertume de son étiolement. On aurait dû vous en parler en mars de ce film, quand le magnifique coffret qui sert d'écrin à sa restauration en DVD et en Blu-ray était paru, et puis voilà, l'épidémie, le confinement et tout ça. On est donc très heureux, Ntebin, Bin, de s'aventurer enfin dans les divers véhicules qu'empruntent Audrey Hepburn et Albert Finney dans ce film, à la construction donc incroyablement complexe, une sorte de réflexion déconstruite sur le temps qui passe, et un drôle de mélange entre le classicisme hollywoodien et la modernité européenne. Un homme et une femme pour grande personne a écrit sur ce film un grand critique américain, Roger Ebert, Ntebin. Bin.
Oui, et c'est un film en fait hybride. C'est un film qui a été reçu avec beaucoup de déconcertation dans les années 60, parce que, comme vous l'avez dit, c'est Two for the Road, mais c'est un film qui est au carrefour de plusieurs époques. Déjà, alors quand on le voit aujourd'hui, c'est une sorte de bain des années 60s. Et vous avez dit entre classicisme et modernité, c'est vrai. C'est presque choquant pour les fans d'Audrey Hepburn à l'époque de la voir dans un rôle où elle parle de sexe avec un partenaire plus jeune qu'elle. L'une des premières choses qu'il lui demande, c'est « Est-ce que vous êtes vierge ?» Elle a 37 ans, alors qu'elle est censée jouer dans cette scène-là une jeune femme de 25 ans. Enfin, bref. Et c'est un film à la construction absolument étonnante, qui a été imaginé par le scénariste et écrivain Frédéric Raphaël, qui était à l'époque l'un des scénaristes du Swinging London, enfin, même s'il est né en Amérique, mais il est plutôt d'adoption britannique. D'ailleurs, on ne sait jamais dans le film si les personnages sont américains, anglais, ce qu'ils font dans la vie. On sait que lui est architecte, mais en fait, on ne les voit qu'en vacances.
Et c'est ça le pari incroyable, c'est de raconter une histoire et d'un couple qui va perdre le désir, qui va se disputer, etc., mais uniquement sur la route des vacances en France.
Voilà, alors ça c'est le premier pari. Le deuxième pari, c'est que c'est un film où on a l'impression que ça va être des flashbacks, puisqu'au au départ on voit un couple marié, et puis ils croisent un mariage sur la route là, de leur voiture. Il y a elle qui dit, elle regarde les mariés, elle dit ils ont pas l'air très heureux, et puis lui qui répond bah évidemment ils se marient. Donc, et à partir de là, on pense que le film va être construit en flashback, mais pas du tout. Comme disait Donen et comme dit Frédéric Raphaël, le film est toujours au présent. C'est-à-dire qu'une image va en enchaîner sur une autre, et qu'on soit 12 ans en arrière ou aujourd'hui, on est toujours au présent. Et là où Stanley Donen, là où on voit, même s'il s'en défendait, qu'il a quand même commencé dans la comédie musicale, c'est qu'il y a un rythme dans ce film qui est proprement, enfin c'est chorégraphique, en plus il y a la partition de Mancini, et puis il y a deux solistes qui sont les deux acteurs principaux, qui sont, on pouvait pas rêver mieux, et en même temps, ils sont pas faits pour être ensemble, parce qu'ils n'appartiennent pas à la même période de l'histoire du cinéma. Audrey Hepburn, c'est les années 50, en gros, c'est-à-dire, c'est l'ingénue dont sont tombés amoureux tous les spectateurs masculins et qu'ont eu envie d'imiter toutes les spectatrices. Hein, donc, elle faisait l'unanimité, mais dans un rôle qui, parfois, tendait à se stéréotyper.
Généralement, c'était un peu Cendrillon. C'est-à-dire que les films avec Audrey Hepburn se terminaient toujours par c'est la rencontre, et puis ce qui va se passer après, c'est laissé.
C'est des contes de fées.
C'est laissé à la fin du film, on le verra pas. Là, c'est, ils se sont rencontrés, ben voilà ce qui s'est passé après.
Et d'ailleurs, Donen disait, ce qui était très audacieux, c'est pour ça d'ailleurs que la Universal, qui était sous contrat avec Donen, a refusé le scénario, parce qu'il disait, il se passe rien dans ce film. Mais en fait, il se passe rien, mais la structure du film fait que, en fait, c'est comme une sorte de film de science-fiction. C'est-à-dire, un an après, il y a Alain René qui va faire Je t'aime, je t'aime, où il y a les dernières années du protagoniste qui se mélangent parce qu'il est dans une machine à remonter le temps. Et bien là, la machine à remonter le temps, c'est le cinéma et c'est le scénario lui-même. Le rôle masculin principal avait été proposé à Paul Newman, qui avait répondu le film est très bien, mais j'ai pas envie de le faire parce que c'est pas un film d'acteur, c'est un film de metteur en scène. Et effectivement, le paradoxe, c'est qu'on est toujours présent, et c'est comme si on se rencontrait soi-même à une autre époque, et c'est comme ça que le film tricote quelque chose de très savant, et en même temps quelque chose d'assez sacrilège par rapport à la persona d'Audrey Hepburn, et c'est merveilleux parce que Frédéric Raphaël, ses dialogues sont extraordinaires, mais imaginez que cette enfant chérie des années 50 est confrontée à ce jeune homme en colère de la nouvelle vague britannique. Et l'une des premières choses qu'il va lui demander, est-ce que vous êtes vierge ? Alors que voilà, la chasteté de l'image d'Audrey Hepburn, c'est quelque chose à préserver absolument. Et puis il y a un petit échange qui s'ensuit. C'est-à-dire que et c'est là qu'on voit la direction d'acteur. Elle se fait à l'écriture, elle se fait dans le dialogue avec les comédiens. Il y a une scène absolument extraordinaire dans ce film très haché. Il y a une scène très longue en fait. C'est celle où elle revient alors que elle a fait une escapade avec son amant. D'ailleurs, dans ce film, la femme est beaucoup plus honnête et beaucoup plus droite que l'homme. C'est-à-dire, lui, quand il la trompe, il lui écrit une lettre d'amour. Et puis, quand on entend le texte de la lettre, on voit qu'il est en train de draguer.
C'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, là, encore.
Voilà. Alors que elle, c'est tout de suite, elle répond, il lui dit, t'as couché avec lui, elle lui répond oui. Et puis, alors, elle revient. Après, alors qu'on pense qu'elle l'a abandonné, et elle lui dit bonjour, il lui dit tu t'es bien amusé, et elle dit oui merci, et pourquoi tu reviens, parce que tu m'as manqué, oui mais pourquoi. Et elle dit parce qu'il était tellement sérieux. Et il dit oui, mais toi, tu t'aimes ça, les gens sérieux. Et alors là, Audrey Hepburn, il y a sa façon elle de dire ça. Yes, but he was so serious. Et c'est là qu'on voit que on est au carrefour entre la comédie du remariage, c'est-à-dire les années 30, la screwball comédie, où en fait, à partir du moment où on peut rire ensemble, c'est-à-dire plus être sérieux, on peut à nouveau s'aimer. Et puis on annonce Scène de la vie conjugale de Bergman, qui sera le film préféré d'Audrey Hepburn, c'est-à-dire on règle nos comptes, et puis finalement, c'est pas facile d'être ensemble.
Wait a minute.
Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez pas passer la frontière, voyons.
No, my passport's in here. Must be in here somewhere. I've got a very important meeting in Rome. I've got to get through. Bitch.
Bastard.
Mais
Merci Yann Tebbin, on se quitte sur ces mots aimables. Beach Bastard, Voyage à deux de Stanley Donen en très belle copie restaurée, est édité par Wildside dans un magnifique écrin qui comporte notamment le livre passionnant et richement illustré de Marc Frelin et Adrienne Boutan, qui était notre invité la semaine dernière dans Plan Large. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son d'Ofar Guérid, l'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Paul-Ré. La semaine prochaine, si tout va bien, nous nous entretiendrons avec le cinéaste allemand Christian Petzold, dont sort l'envoûtant Ondine, Ours d'argent, à la dernière Berlinale. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présenté par Christine Bernard.